Vous écoutez, on lit pour vous.
1924, la meilleure voiture à vapeur de l'histoire. Un texte de Marc Tison, paru le 31 juillet 2023 dans La Presse. Trop tôt ou trop tard? Certaines prouesses technologiques ont été réalisées au mauvais moment. Nous relatons un de ces malheureux exploits dans le secteur du transport. Un petit voyage dans le temps. En 1924, le plus important constructeur de voitures à vapeur en Amérique, Stanley Motor Carriage, a rendu son dernier souffle. Le moteur à explosion s'était définitivement imposé. Pourtant, cette même année, Double Car a lancé ce qui fut sans doute la voiture à vapeur la plus perfectionnée de l'histoire et peut-être la meilleure voiture de son temps. Silencieuse comme un souffle sur la route, plus rapide que les Lincoln, Cadillac ou autres Packard. Une garantie de 160 000 km sur le moteur. Au milieu des années 1920, la Double E était sans doute la meilleure et la plus raffinée des voitures américaines de son époque. Or, elle fonctionnait à la vapeur. La qualifier de locomotive sur pneus serait un affront. De l'extérieur, rien ne la distinguait fondamentalement de ses concurrentes. Dans son ouvrage « Double Steam Cars », J.N. Walton raconte que le propriétaire d'une Double modèle E a parcouru 300 000 km en 20 ans, durant lesquels le seul entretien a consisté en 3 changements de train de pneus, 2 nouvelles batteries et une pastille d'acier pour boucher un trou sur la chaudière. Une famille sous pression. Habner Double était né en 1890 au sein d'une famille aussi aisée que friande de technologie. Son grand-père avait fondé une fabrique d'outils pour les chercheurs d'or de Californie que son père avait élargie à la fabrication de roues hydrauliques. Le jeune Habner fréquentait encore l'école secondaire quand, avec son jeune frère John, il a remonté une vieille voiture à vapeur dans laquelle ils ont installé un moteur de leur conception. Admis en 1910 au prestigieux Massachusetts Institute of Technology, MIT, il s'est rapidement désintéressé de ses études pour ouvrir un petit atelier expérimental dans une ville voisine où il s'est attaqué à la conception d'une voiture à vapeur selon ses vœux. Assisté encore une fois par son frère John, lui-même brillant technicien, Habner Double a assemblé un premier véhicule, puis un second. Ce modèle B était à peine un prototype, mais ses performances lui ont déjà valu des commentaires élogieux dans la presse spécialisée. Il passait de 0 à 100 km/h en 15 secondes. Une remarquable accélération, écrivait la revue The Automobile en 1914. Habner Double a entrepris à son volant une longue tournée qui l'a menée jusqu'à Détroit, où il s'est mis en quête d'investisseurs. C'est dans la capitale de la voiture à essence que les deux frères mettent au point en 1916 leur modèle C, sous la marque Double Détroit. Le prototype est présenté à l'important Salon automobile de New York en janvier 1917. Les articles qui évoquent ses performances suscitent plus de 5000 commandes assorties de dépôts en provenance d'un peu partout aux États-Unis. En septembre 1917, un bail est signé à Détroit pour la location d'une usine de 52 000 pieds carrés, 4830 mètres carrés. L'usine doit être lancée au printemps suivant, mais l'entreprise s'effondre soudainement alors qu'à peine une dizaine de voitures ont été assemblées. Habner Double prétextera la pénurie d'acier provoquée par la Première Guerre mondiale, mais les problèmes techniques de la voiture et des mésententes entre les deux frères sur la paternité de ces innovations sont plus vraisemblablement en cause. Il retourne penaud en Californie, où John meurt d'un cancer en 1921, à peine âgé de 28 ans. 5 mois plus tard, Habner et ses autres frères William et Warren font de la Double Steam Motors et ouvrent bientôt une usine dans la région de San Francisco. En 2 ans, la fratrie et ses employés construisent un nouveau prototype, le modèle D, puis une version encore améliorée, le formidable modèle E. À toute vapeur, son fonctionnement. Nous sommes dans la section affaires et non dans la section auto. Aussi, ne nous étendrons-nous ni sur le sujet ni sous le véhicule. Retenons seulement que la vapeur produite dans une chaudière est amenée sous pression dans un moteur où elle anime des pistons. Les frères Double ont remplacé le problématique moteur à deux cylindres des modèles précédents par un nouveau moteur à quatre cylindres, dans lequel la vapeur exerçait sa pression dans les deux sens, tant à l'aller qu'au retour du piston. Nul besoin de boîte de vitesse ou de pédale d'embrayage. La puissance de la vapeur sous pression se libérait instantanément à l'aide d'un petit volant placé au centre du volant de direction. Une version allégée du véhicule a atteint la vitesse 120 km/h en 10 secondes, une accélération ahurissante à l'époque, et pratiquement sans vibration, de surcroît. Allumage. L'allumage a rarement été mieux nommé que pour une voiture à vapeur. Il fallait craquer une allumette pour faire démarrer les automobiles à vapeur Stanley. Des dizaines de minutes pouvaient s'écouler avant que la pression soit suffisante pour faire bouger le véhicule. Pour sa part, la voiture de Double s'élançait moins de 40 secondes après que la clé de contact avait activé l'allumeur électrique du brûleur. Le combustible du brûleur, habituellement du kérosène, se consumait plus complètement que le carburant d'un moteur à explosion, entraînant moins d'émissions polluantes. Avec une carrosserie construite sur mesure, le poids de la bête avoisinait l'éléphantesque total de 5500 livres, 2495 kg. La Double E pouvait néanmoins tenir une consommation moyenne de 19 litres par 100 km, une excellente performance pour une voiture de ce poids et de cette époque. Grâce à un ingénieux système de condensateurs, la voiture pouvait parcourir 1500 km sur sa réserve de 4 litres d'eau. Le mieux est l'ennemi du bien. Abner Doble était un incurable perfectionniste, hélas. Chaque nouvelle voiture assemblée apportait des améliorations sur la précédente, ce qui ne favorisait en rien la construction en série. Malheureusement, ce perfectionnisme ne s'étendait pas aux questions financières. En 1924, de douteuses ventes d'actions ont attiré l'attention des autorités. Abner Doble a été blanchi pour des détails techniques, mais la réputation de son entreprise en est restée souillée. Pratiquement fabriquée à la main par des orfèvres de la mécanique, une Double E carrossée pouvait atteindre le prix astronomique de 18 000 $ américains. Boudée par les investisseurs méfiants et les acheteurs impécunieux, frappée par la Grande Dépression, la Double Steam Motors a définitivement fermé ses portières en 1931. On estime qu'une cinquantaine de Double E avaient été construites, dont plusieurs roulent encore de nos jours. Abner Doble s'est éteint en 1961. Jusqu'à son dernier souffle, dit-on, il a soutenu que la voiture à vapeur était aussi performante, sinon meilleure, que la voiture à essence. C'était 1924, la meilleure voiture à vapeur de l'histoire, un texte de Marc Tison, paru le 31 juillet 2023 dans La Presse.
Think Big, ou les grands oubliés du projet Les Espaces Bleus, un texte de Lauriane Deschâtelet, paru le 13 mars 2024 dans Le Devoir. De 4 mars 2024, la Coalition Avenir Québec, CAQ, annonçait l'abandon de son projet culturel, les Espaces Bleus. Après le calcul des surcoûts des 4 projets déjà en chantier, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, décidait que les 18 nouveaux musées voués à la promotion de l'héritage culturel québécois ne verraient pas le jour. Depuis, Québec solidaire et le Parti québécois proposent de rediriger les fonds restants. Le premier suggère le milieu muséal et le second, les médias régionaux. Au-delà des prises de position partisanes, nous pensons que les grands oubliés sont les organismes voués à la création indépendante, situés au début de la chaîne de valeur. Le milieu culturel est certes composé d'institutions, mais surtout d'artistes et de travailleurs culturels qui les font vivre. Ils sont nombreux à œuvrer à l'intérieur de petites structures implantées dans nos villes et nos régions depuis les années 1970. Pensons notamment au Centre d'artistes autogérés, organisme à but non lucratif, ayant tracé la voie d'une lignée de collectifs voués à l'expérimentation, dont l'histoire demeure largement méconnue et sous-médiatisée. Du fait de leur manque de visibilité, ces organismes sont particulièrement vulnérables aux multiples crises économiques, politiques, épidémiques, numériques, etc., qui touchent le secteur. Dans leurs ateliers et leurs bureaux, leurs membres s'affairent à trouver des solutions pour pérenniser leur structure, souvent au péril de leur santé. Des études récentes attestent de la forte précarité socio-économique des artistes en arts visuels et en arts de la scène. Cette précarité est la première cause de sortie des artistes des milieux artistiques, à laquelle s'ajoute le poids des exigences administratives et la course aux subventions. Suivant ces constats, nous remettons en question la part de financement octroyée aux artistes et aux travailleurs culturels œuvrant dans les espaces de création indépendants qui peinent à réaliser leurs missions socio-culturelles. Les programmes de promotion de la culture québécoise en contexte numérique sont chers à notre actuel gouvernement. Mais la défense tous azimuts des produits culturels et des manières de les rendre découvrables sur le marché tend à invisibiliser le travail effectué hors de l'industrie et répondant à d'autres conventions. La CAQ, Think Big, avec des projets spectacles, dont les espaces bleus, n'ont été qu'une itération, du même ordre que la subvention allouée aux Kings. Difficile de ne pas récupérer l'anglicisme emprunté au personnage d'Elvis Gratton par la ministre des Transports Geneviève Guilbeault en 2022, qui illustre une logique de gouvernance spectaculaire et centralisatrice déconnectée des besoins des principaux concernés. Le fonctionnement du système de financement en culture perpétue d'ailleurs cette même déconnexion des conditions de pratique des artistes. Les sommes allouées à la réalisation de projets artistiques sont rarement arrimées aux besoins de ceux et celles qui les gèrent à bout de bras. À terme, les trop grandes promesses mènent à l'essoufflement des travailleurs des milieux artistiques. La promotion de la culture d'ici ne devrait-elle pas passer par la pérennisation des structures de création déjà existantes, plutôt que par la construction d'un réseau supplémentaire? C'était Think Big ou les grands oubliés du projet Les espaces bleus, un texte de Lauriane Deschâtelet, paru le 13 mars 2024 dans Le Devoir.
La coccinelle qui s'est évaporée dans la nature, un texte de Alexis Riopel, paru le 22 juillet 2023 dans Le Devoir. Il y a une dizaine d'années, des agents du COSEPAC au Canada ont recherché la coccinelle à 9 points d'un bout à l'autre du pays. Ils ont visité 230 sites et consacré 262 heures à la fouille. Ils n'ont trouvé que 4 spécimens. Objet dont on ne se sert plus, pratique oubliée, lieu d'un autre temps, extinction d'espèces, espace mythique et style suranné, qu'est-ce qui a disparu autour de nous? La série Disparition voyage au cœur des effacements dont nous n'avons eu que peu ou prou connaissance au fil du temps. Première disparue, la coccinelle à 9 points. L'histoire de la coccinelle à neuf points est triste. Jadis l'une des espèces de coccinelles les plus abondantes au Canada, elle est maintenant essentiellement, mais pas officiellement, disparue. Je ne l'ai jamais vue et je pense que je ne la verrai jamais, se désole André-Philippe Drapeau-Picard, un entomologiste de l'Insectarium de Montréal. La coccinelle à neuf points, Coccinella novem notata, pullulait au Québec avant les années 1970. On retrouvait typiquement ce petit coléoptère de 4,7 à 7 mm dans les milieux ouverts, comme les champs et les friches. On pouvait le reconnaître à ses élytres orange vif, ornés de 9 points noirs, quoique le nombre de points pût parfois différer. L'entomologiste Nicolas Bédard des Ressources naturelles Canada n'a lui non plus jamais vu de coccinelle à 9 points. Quand je croise une coccinelle, je vérifie si elle appartient à cette espèce. Je veux pouvoir lever un drapeau si jamais je tombe sur un spécimen. Au Québec, la dernière observation rapportée de la coccinelle à 9 points remonte aux années 2010, près du Mont Saint-Hilaire, en Montérégie. La précédente observation consignée était survenue 3 décennies plus tôt, dans les années 1980, indique M. Drapeau-Picard. Il y a une dizaine d'années, des agents du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, COSEPAC, ont recherché la coccinelle à 9 points d'un bout à l'autre du pays. Ils ont visité 230 sites et consacré 262 heures à la fouille. Ils n'ont trouvé que 4 spécimens. 3 à Medicine Hat en Alberta et 1 à Osoyoos en Colombie-Britannique. En 2016, le COSEPAC avait ainsi conclu que la coccinelle à 9 points était en voie de disparition. En février dernier, ce statut a finalement été inscrit dans la loi sur les espèces en péril du Canada. Au Québec, la coccinelle à 9 points est l'une des 4 espèces d'insectes considérées comme menacées, aux côtés du bourdon à taches rousses et de 2 papillons, le cuivré des marais salés et le satyre fauve des maritimes. Des concurrentes exotiques. Les causes précises du déclin de la coccinelle à 9 points demeurent à ce jour mal comprises. Plusieurs phénomènes contribuent probablement à sa déchéance, mais les spécialistes ont du mal à évaluer l'importance relative de chacun de ceux-ci. Notons d'abord la multiplication des coccinelles non indigènes comme la coccinelle à 7 points et la coccinelle asiatique qui joue en défaveur de Coccinella novem notata. Ses concurrentes peuvent accaparer les proies disponibles, s'attaquer aux coccinelles indigènes et introduire de nouveaux pathogènes en Amérique du Nord. Ensuite, les pesticides modernes utilisés par les agriculteurs combattent très efficacement la présence des pucerons dans les champs. Or, même si la coccinelle à 9 points n'hésite pas à avaler tout ce qui lui tombe sous la mandibule, elle était particulièrement friande de pucerons. Son garde-manger s'est donc vidé. Vous écoutez « La coccinelle qui s'est évaporée dans la nature », un texte de Alexis Riopel, paru le 22 juillet 2023 dans Le Devoir. Quand je croise une coccinelle, je vérifie si elle appartient à cette espèce coccinelle à 9 points. Je veux pouvoir lever un drapeau si jamais je tombe sur un spécimen. Nicolas Bédard. Monsieur Bédard, un spécialiste des coléoptères, est convaincu que la prolifération des coccinelles exotiques a joué un rôle crucial dans le déclin de celles à 9 points. C'est absolument fou de voir combien il y a de coccinelles asiatiques et à 7 points, même reculées en forêt. Ces espèces étrangères, en apparence parfaitement adaptées au Québec, créent de nouvelles pressions sur les écosystèmes et peuvent déclencher un effet domino, explique-t-il. Effort de réintroduction. Que faire pour donner un coup de patte à la coccinelle à 9 points? Au sud de la frontière, des entomologistes de l'Université Cornell dans l'État de New York tentent depuis quelques années de réintroduire cet insecte dans le nord-est des États-Unis. Dans le cadre du projet Lost Ladybug Rescue, ils élèvent des spécimens en captivité à partir d'individus trouvés à Long Island en 2011. L'équipe fait ensuite appel aux citoyens pour lâcher ces spécimens dans la nature. Concrètement, elle vend aux entomologistes amateurs des larves de coccinelles à 9 points. Celles-ci arrivent par la poste. Installées dans un jardin ou un potager, les larves deviennent insectes, mangent les pucerons inopportuns et, espère-t-on, partent à la conquête du territoire. Le volet commercial du projet Lost Ladybug Rescue rencontre toutefois des difficultés, indique l'écologiste Rebecca Smith, une responsable affiliée à l'Université Cornell, dans un échange courriel avec Le Devoir. Nous manquons de capacité de production. Les frais de livraison sont exorbitants. Notre produit coûte très cher, etc. Nous aimerions toujours impliquer les participants intéressés dans l'effort de réintroduction, mais nous aurons besoin de subventions pour soutenir les projets et impliquer davantage de personnes, explique Mme Smith. Une valeur intrinsèque. La coccinelle à 9 points représente certainement l'une des disparitions les plus tragiques du paysage entomologique de l'Amérique du Nord. Les espèces exotiques qui l'ont remplacée occupent peut-être sa niche écologique, mais il ne faut pas pour autant minimiser la gravité de cette perte, souligne M. Drapeau-Picard. Chaque espèce a une valeur intrinsèque et vaut la peine d'être protégée pour cette raison-là, dit-il. En ce moment, force est de constater qu'il y a de plus en plus d'espèces en péril. Pour les insectes, les trois principaux facteurs sont toujours les mêmes, les changements climatiques, l'utilisation de pesticides à grande échelle et la perte d'habitat. Ce dernier facteur pouvant découler de la propagation d'espèces exotiques. Des jungles tropicales aux forêts boréales, certaines populations d'insectes accusent ainsi un recul ces dernières décennies. Ce déclin, qu'on observe notamment au Québec, inquiète les scientifiques. Il est urgent de freiner cette dégradation de notre patrimoine entomologique, implore André-Philippe Drapeau-Picard. C'était « La coccinelle qui s'est évaporée dans la nature », un texte de Alexis Riopel, paru le 22 juillet 2023 dans Le Devoir.
Le parc Safari, c'est un parc animalier et bien plus. Un texte de Logan Cartier, paru le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue. Ouvert depuis plus de 50 ans, le parc Safari a fait découvrir une parcelle d'Afrique à plus de 13 millions de jeunes et de moins jeunes. Depuis l'an dernier, il est possible de faire le Safari Aventure en camion de brousse électrique. Le PDG du parc, Jean-Pierre Ranger, y pensait depuis 2010. Les nouveaux camions de brousse électrique ont une capacité de 50 personnes par camion. Ils sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et sont les seuls véhicules qui permettent de visiter le parc en avant-midi. Durant le trajet, un guide vous parlera des animaux que vous croiserez sur votre chemin. Vous pourrez toujours réaliser le safari aventure avec votre voiture en après-midi et y voir déambuler quelques 300 animaux appartenant à 30 différentes espèces dans la prairie du parc. Rappelons que le safari aventure se divise en 3 secteurs. L'Afrique, l'Eurasie et les Amériques. Dans ce parcours de plus de 4 km, vous avez la chance d'observer, photographier, toucher et nourrir les dromadaires, les bisons, les wapitis, les grands koudous et conserver de votre voyage des souvenirs pour la vie. Pour faire plaisir à vos nouveaux amis, apportez de la laitue ou du céleri ou procurez-vous la moulée vendue sur place. Pour leur santé, il ne faut pas donner de carottes, de pommes, de maïs ou de légumes de la famille des choux aux animaux. Les fruits et légumes sucrés, de même que les crucifères, peuvent causer des problèmes de digestion à plusieurs espèces. Des tunnels de verre permettent une rencontre unique avec les félins. tendez la main et nourrissez une girafe à la Terrasse Africa. Ces activités, et bien d'autres encore, vous garantissent une journée absolument exceptionnelle en safari. L'expérience Cool Box. Au cœur du parc safari, à 250 mètres de l'enclos des lions, se dresse une douzaine de mini-maisons colorées. Objectif : offrir aux amateurs une expérience inusitée, bonifiée, immersive et surtout éducative dans le temps et la durée. Qui a le temps, en une journée, de tout voir, tout faire, de la tournée des animaux au jeu d'eau, avec ou sans enfants? Mais nul besoin de se presser avec le forfait Cool Box, du nom des dites mini-maisons, qui permet d'étirer le plaisir sur 2 jours, une nuit, ou 3 jours, 2 nuits. C'est une forme de glamping de luxe où il vous faut apporter votre sac de couchage, la literie, les draps, couvertures et oreillers ne sont pas fournis, et votre eau potable. Chaque Cool Box permet d'accueillir jusqu'à 8 personnes en lit queen superposé et divan-lit, selon le modèle de Cool Box, et comprend cuisinette fonctionnelle, douche et toilette. Le parc safari en chiffres. 1972, ouverture du parc safari. Près de 14 millions de visiteurs ont parcouru les sentiers du parc depuis son ouverture. Environ 300 000 visiteurs par année. 300 animaux en provenance des 5 continents. 5 kilomètres à parcourir pour voir les animaux de près, en plus de plusieurs sentiers, le sentier des daims, le tunnel des lions et la passerelle Hall du Vail, la Terrasse Africa et même une petite ferme des 5 continents à découvrir à pied. Info, en un mot, parksafari.com. C'était le Parc Safari, c'est un parc animalier et bien plus. Un texte de Logan Cartier, paru le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue.